Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de parler avec vous sur le thème la résurrection du Christ. Amen. La résurrection du Christ. On va parler un peu d'un acte qu'il a posé, qui était très important, sur lequel des fois on a quelques petites zones d'ombre, on ne comprend pas bien trop entre le moment où il a rendu l'âme et le moment où il est apparu aux disciples, qu'est-ce qui a bien pu se passer, qu'est-ce qu'il a fait. Et le Seigneur m'a mis à cœur de partager ça avec l'Église de Jésus à travers le monde, à commencer par notre assemblée, l'Église victorieuse. Amen. Et nous allons voir comment le travail qu'il a accompli est un travail excellent. Amen. Si nous comprenons la force qui a été déployée lors de la résurrection, si nous comprenons la puissance qu'il a déployée, si nous comprenons les enjeux qui étaient en compte, nous allons comprendre que définitivement, il est impossible que nous soyons dans l'échec et que nous ne puissions pas avoir la victoire dans toute situation. Amen. Parce que la résurrection est la victoire sur la mort. La résurrection est la victoire sur les puissances de la mort. Et on a vu beaucoup d'hommes s'élever, des gens illustres, des gens puissants, des gens qui étaient considérés comme des surhommes. Mais ils ont tous échoué devant la mort parce qu'ils sont morts et ils sont restés dans le tombeau. Mais seul Jésus, amen, a pu avoir la victoire sur la mort. Vous avez des prophètes aujourd'hui dont on a peur même de mentionner le nom parce que leurs partisans sont très violents et virulents et capables de avec beaucoup de violence, de calmer tous leurs détracteurs. Mais Mahomet, il est mort et son tombeau est encore là. Confucius est mort, son tombeau est encore là. Les grands prophètes qui ont marché sur la terre sont tous morts. Et on peut encore localiser leur tombeau et leurs ossements sont encore là. Mais seul Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, a pu avoir la victoire sur la mort. Amen. Et c'est extraordinaire. Quelqu'un qui a vaincu la mort, je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit d'autre qu'il ne puisse vaincre. Amen. Et nous allons nous pencher un peu sur la question et voir clairement, concrètement, exactement ce qu'il a fait. On va prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 27. Chapitre 27, on va lire plusieurs versets. Matthieu, chapitre 27. Matthieu, chapitre 27. À partir du verset 1. On va pratiquement lire tout le chapitre, mais donc on va sauter, on va lire partie par partie. On va éliminer quand même certains passages, parce que sinon, on risque de traiter la question en 3 ou 4 enseignements. Amen. Le but aujourd'hui est de faire ressortir une certaine partie pour que votre foi puisse être affermie. Amen. Dis à ton voisin, ta foi sera affermie. Amen. Matthieu 27, à partir du verset 1. La Bible dit, « Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. » Donc, le matin, des gens se sont associés, les principaux sacrificateurs, les anciens du peuple, ils ont fait un conseil contre, spécialement contre Jésus, avec pour but d'en finir avec lui, de le faire mourir. Sachez que le plan de Dieu, du diable était de le faire mourir, parce qu'il causait trop de problèmes au diable sur la terre. La Bible dit dans le livre d'Actes, chapitre 10, verset 38, vous connaissez Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, et délivrant, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Donc, pendant qu'il était sur la terre, il a fait trop de choses. Il a intervenu dans la vie de personnes qui étaient liées par des démons. Il a intervenu dans la vie de personnes qui étaient malades. Il a intervenu dans la vie de personnes qui étaient aveuglées par les pensées du monde, par le système du monde. Il les a éclairées. Il leur a montré le chemin. Il leur a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul n'irait au Père sans passer par moi. Et il a commencé à sauver des âmes et à toucher des vies. Et ça ne plaisait pas au diable. Le diable avait pour objectif de le tuer. Amen. Donc, il a inspiré des gens comme il a l'habitude de le faire, très souvent, vous avez des gens qui, sans aucune raison, commencent à vous haïr, commencent à vouloir vous faire du mal, à vouloir même des fois vous tuer. Mais ce n'est pas d'eux-mêmes, c'est l'ennemi qui leur inspire ces choses-là. OK ? Au verset 17, ensuite, la Bible nous dit, « Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je relâche, Barnabas ou Jésus qu'on appelle Christ ?» Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. En réalité, les motivations de ces gens-là étaient l'envie, étaient la jalousie. Ils avaient de la jalousie envers Jésus, ils l'enviaient. En réalité, s'ils avaient la possibilité de faire les miracles que Jésus faisait, s'ils avaient l'onction que Jésus avait, s'ils avaient l'aura que Jésus avait et l'amour du peuple qu'il avait, certainement ils allaient être heureux. OK ? Mais ils ne l'avaient pas. Et ils ne savaient pas comment l'avoir. Et au lieu d'écouter Jésus pour pouvoir discerner à travers ses propos et à travers ses dires et à travers ses actions et à travers ses actes, les éléments qui ont fait sa force, parce qu'il n'a pas privé le monde d'enseignement, ils ont plutôt laissé grandir leur jalousie et leur haine qui a eu pour résultat de vouloir l'exterminer, de vouloir le tuer. OK ? Et Ponce Pilate n'était pas dupe. Il leur a dit, je vous propose de libérer quelqu'un. Mais quand bien même, devant cette proposition, ils sont quand même restés dans leur logique et ils ont préféré faire de l'injustice au lieu de faire de la justice. Et la Bible dit, au verset 19, pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. Donc sa femme l'a averti de ne faire aucun mal à ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Elle nous informe que sa nuit a été très tourmentée, parce qu'elle se rendait compte qu'il y avait une grande injustice qui était en train de se faire. Et elle a préféré avertir son mari et lui dire, fais attention, parce qu'il y a des actes d'injustice que nous commettons qui peuvent avoir des répercussions sur notre vie et sur la vie de nos enfants. Qu'il n'y ait rien entre toi et lui, ne lui fais pas de mal. Mais Ponce Pilate était lié. Au verset 24, la Bible dit, Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien en discutant avec les Juifs, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule, il prend de l'eau, il se lave les mains, et il dit, je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. Il a préféré sortir de la décision que les Juifs allaient prendre et leur dire, je vous mets en face de vos responsabilités, il se lave les mains et il s'éloigne. Au verset 25, la Bible dit, et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Les Juifs, d'une seule voix, ont crié, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Ils ont pratiquement et littéralement appelé la malédiction sur leur vie. Et demain, ils se sont demandé, mais pourquoi est-ce que Dieu les a livrés à Hitler pour que Hitler puisse tuer 6 millions de Juifs? Et beaucoup de personnes disent, ah oui, mais Dieu, est-ce que Dieu existe vraiment? Est-ce qu'il est vraiment le Dieu des Juifs? Parce qu'il les a laissés quand même se faire tuer et tout ça par Hitler. Mais des fois, Dieu, c'est un Dieu de justice. Lorsque vous avez tué le juste, on vous a mis en garde contre les répercussions que pouvait avoir vos décisions en commettant une telle injustice. Et au lieu de demander pardon, au lieu de se repentir, les gens ont appelé la malédiction sur leur vie en disant que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Vous savez que la génération de ceux qui ont dit ces choses-là ont été tous expulsés d'Israël. Vous savez que plus tard, le temple de Jérusalem a été détruit, a été remplacé par une mosquée. Et que les Juifs ont erré sur la terre pendant des milliers d'années, plus de 1500, 1800 ans, jusqu'à ce qu'il y a à peine un siècle, Dieu les rassemble de partout dans le monde pour les ramener en Israël. OK ? Ce sont les conséquences des actes qu'ils ont posés. Et Hitler a été un homme instrumentalisé par le diable pour pouvoir faire des choses terribles, au point de faire tuer plus de 6 millions de juifs dans des camps de concentration. Ils ont été déportés, les enfants ont été tués. Ça a été des choses terribles. Parce que, encore une fois, beaucoup de personnes pensent que les malédictions n'existent pas. Mais les malédictions existent et elles fonctionnent. Et Dieu est le premier à respecter ces choses. Parce qu'il a dit, je mets devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisissez la vie afin que vous viviez, vous et les vôtres. Amen. Donc en appelant la malédiction, ils se sont eux-mêmes placés sous le coup du jugement. Et lorsque le jugement est tombé, ça fait mal. Alors, Pilate, donc verset 26, leur relâcha Barabbas. Ils ont préféré relâcher le brigand au lieu de relâcher le juif. Le juste, ils ont préféré relâcher celui qui les volait, celui qui les persécutait, au lieu de relâcher celui qui les guérissait et qui les délivrait. Ils ont préféré relâcher celui qui pervertissait leurs enfants, au lieu de relâcher celui qui les enseignait et qui les éclairait. Donc vous voyez un peu comment le monde peut être des fois bizarre et méchant envers ceux qui leur veulent du bien. Et après avoir fait battre Jésus de verge, il le livra pour être crucifié. Le verset 29 nous dit qu'ils tressèrent, les gardes, une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite, puis s'agenouillant devant lui, ils ont commencé à rire en disant « Salut, roi des Juifs !» Oh, Jésus n'est pas le roi des Juifs. Il n'a jamais revendiqué un royaume terrestre. Il a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Amen. Au verset 50, nous voyons que Jésus est ensuite crucifié, pendu à la croix, qui est un symbole de malédiction. La Bible dit que il s'est fait malédiction pour nous afin que nous puissions recevoir la bénédiction d'Abraham, car il est écrit « Maudit soit quiconque est pendu au bois ». Donc on l'a tué comme un vulgaire vaurien, quelqu'un de méchant, quelqu'un de mauvais en le pendant à la croix. Il est mort et lorsqu'il mourait, la Bible dit qu'il a rendu son âme, il a rendu son esprit à Dieu. Au verset 50, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, lorsqu'il rend l'esprit, au verset 51, la Bible dit, voici le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. Amen. On va revenir sur ce passage-là parce que c'est très important. Après ça, c'est un acte très important parce que chaque année, le souverain sacrificateur, à la même période, entrait dans le temple, entrait dans le lieu saint et traversait le voile. Il traversait ce voile-là, le voile du temple, avec du sang de celui qu'on appelle l'agneau, l'agneau pascal. Et chaque année, à la même période, il venait avec le sang de l'agneau pascal pour pouvoir en faire l'aspersion dans le temple et le présenter à Dieu pour le pardon des péchés du peuple. Ok? Et donc, c'était un endroit très particulier dans lequel il y avait de manière permanente la présence de Dieu. C'était tellement dangereux pour le souverain sacrificateur qu'on lui attachait une corde aux pieds et des clochers. Et lorsqu'il rentrait là-bas, après un certain temps qu'on n'entendait plus de bruit, on tirait un peu sur la corde pour voir s'il répondait. Et s'il ne répondait pas, on retirait la corde et très souvent, on ramenait son corps. Parce que la Bible dit que... Si tu rentres dans la présence de Dieu avec le péché, il est capable de te foudroyer. Donc, c'était dangereux. Mais ce voile-là, qui était la séparation entre le lieu saint et le lieu très saint, s'est déchiré. Ça veut dire que la présence de Dieu a quitté le temple. Mais vous allez comprendre pourquoi plus tard. Au verset 57, la Bible nous dit que le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Ce verset, moi, je le trouve intéressant parce que la Bible mentionne très clairement que c'était un homme riche. On aurait pu se passer de ce détail, mais ce détail était important. Pourquoi? Parce que c'était sa particularité. C'était un disciple, mais c'était un disciple qui était riche. Et nous étions dans une situation où les disciples étaient un peu comme désarmés par rapport à ce qui se passait. La prière ne pouvait pas faire grand-chose. La plupart d'entre eux étaient disséminés, dispersés, ils allaient chacun de son côté, mais il y avait un homme qui s'appelait Joseph d'Arimathée qui avait du pouvoir, qui avait de la richesse, qui avait la capacité d'intervenir dans cette situation. Pour vous dire que dans l'Église, il est nécessaire d'avoir aussi des Joseph d'Arimathée, des gens capables de répondre matériellement à des besoins qui sont matériels. Le besoin à cette heure-là n'était pas un besoin spirituel, c'était un besoin matériel. Il fallait tout de suite et rapidement trouver quelque chose de digne pour pouvoir mettre le corps du Seigneur Jésus. Il fallait quelqu'un qui avait les moyens d'acheter une sépulture sans avoir à se gratter la tête ou bien à cotiser ou bien aller prendre un crédit. Et par la grâce de Dieu, il y avait un homme qui s'appelait Joseph d'Arimathée qui répondait à ces critères-là. Il était tellement influent que lorsqu'il s'est présenté devant Pilate pour demander le corps, Pilate n'a même pas discuté, il lui a dit « donnez-lui le corps ». Parce qu'il y a des gens comme ça qui, par leur position dans la vie sociale, ont accès à des autorités et peuvent faire certaines choses. Il n'a pas pu empêcher que Jésus soit crucifié, mais il a pu trouver la sépulture où on allait le mettre. Amen. La Bible dit donc au verset 58, il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa dans un linceul blanc. Il le déposa dans un sépulcre neuf. Dis sépulcre neuf. Tu vois, des fois, la Bible va ajouter des petits détails pour te faire comprendre des fois comment est-ce que les choses fonctionnent avec Dieu. On doit parler de ça aujourd'hui. Pilate leur a dit, écoutez, vous avez des gardes. Allez et gardez comme vous l'entendrez. Amen. La Bible dit au verset 66, ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde. Donc, ils ont pris des gardes et les ont postés autour du sépulcre. Après avoir scellé la pierre. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont scellé la pierre. Nous sommes venus et ils se sont assurés, ils ont bétonné la pierre. Imaginez quelqu'un qui est couché dans une grotte, mort, mais on vient quand même, la pierre qui pèse, je ne sais pas combien de tonnes qu'on a roulé devant là, la pierre est là, on vient, on met du béton tout autour et on poste des gardes devant pour ne pas que cette personne-là puisse sortir. Ça veut dire que même s'il devait ressusciter, il allait ressusciter puis rester dans la grotte. Et puis il allait mourir encore de faim et de soif. Mais il ne fallait surtout pas qu'il puisse sortir de la grotte. My God. Tu sais, pour certains, l'ennemi veut s'assurer qu'il va te mettre hors service. Et quand bien même il s'est assuré qu'il t'a mis hors service, il veut maintenant bétonner toutes les issues pour t'empêcher de pouvoir avoir un chemin ou une porte ou un endroit pour pouvoir sortir. Il veut s'assurer que le job est bien fait et qu'il t'a complètement détruit et t'a complètement anéanti. Il continue de penser et de croire qu'il est capable de pouvoir s'opposer au plan de Dieu et à la volonté de Dieu. Mais c'est une folie dont il va guérir bientôt. Alléluia. C'est une folie dont il va guérir bientôt. Le diable veut s'opposer au plan de Dieu. Il veut sceller la pierre. Il veut bloquer la pierre. Il veut mettre du béton autour pour être sûr que ce que Dieu a dit qu'il allait faire dans ta vie, qu'il ne puisse pas l'accomplir. Mais il est un ennemi vaincu. Je dis, il est un ennemi vaincu. Je répète, il est un ennemi. On dirait que tu ne crois pas. Alléluia! Il est un ennemi vaincu. Il était loin même de s'imaginer ce qui allait se passer. Quel que soit ce qui scelle ton miracle aujourd'hui, ça sera enlevé au nom de Jésus. Alléluia. Quelle que soit la puissance que le diable déploie pour empêcher la volonté de Dieu de s'accomplir dans ta vie, cette puissance-là sera brisée au nom de Jésus. Si dans cette situation, Dieu a pu quand même accomplir ce qu'il a dit qu'il allait accomplir, c'est que le diable ne peut pas t'empêcher d'aller là où Dieu veut que tu ailles. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où Jésus a rendu l'âme et l'esprit et le moment où il est ressuscité? Premièrement, il rend son esprit. Contrairement à ce qu'on peut penser, il ne va pas dans le séjour des morts. Il monte directement au ciel. Amen. On peut le voir dans Hébreux, chapitre 9. Hébreux, chapitre 9, du verset 11 au verset 15. La Bible dit, comme je vous ai dit préalablement, chaque année, le souverain sacrificateur entre dans le temple et il vient offrir le sang de l'agneau pascal. Jean le Baptiste dira de Jésus en le voyant, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » En d'autres mots, il est en train de dire, « Voici le vrai agneau pascal. » Parce que depuis, la Pâque s'est arrêtée en Israël. Ils ne peuvent plus amener le sang de l'agneau dans le temple, puisque le temple n'existe plus, c'est une mosquée maintenant. Donc, ils tuent l'agneau dans leur maison, mais ils ne peuvent plus faire, ils peuvent plus apporter le sang dans le temple que Salomon a bâti. Pourquoi? Parce que la Bible dit, dans Hébreux chapitre 9, verset 11, « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur. » Ça veut dire que ce jour-là, le vrai sacrifice allait se faire. Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand, dit plus grand, et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Pourquoi? Parce que le temple de Salomon a été bâti selon un plan. C'est une imitation du temple qui existe dans le ciel. Alléluia! Dans lequel se trouve réellement Dieu. Et il a demandé à Moïse, il a donné les plans, en tout cas à Moïse, ensuite il a reconduit ses plans à David, à Salomon, qui ont financé ce temple-là, mais qui est fait comme le temple qui est dans le ciel, mais qui n'est pas le temple qui est dans le ciel. Donc Christ maintenant ne va pas entrer dans un temple qui a été fabriqué par les hommes, il va rentrer dans le temple qui a été fabriqué par Dieu. La Bible dit au verset 12, il est entré une fois pour toutes. Dis une fois pour toutes. Contrairement au sacrifice que les Juifs faisaient chaque année, lui ce sacrifice-là, on n'a pas besoin de faire ça chaque année. On le fait une et une seule fois. Une fois pour toutes, dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs. Il n'est pas venu avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternel. Car, verset 13, car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Jésus-Christ qui, par un esprit éternel, parce que c'est sa dimension éternelle qui fait de son sang une force éternelle. C'est pas le sang des boucs, c'est le sang du Fils de Dieu. Donc, il y a une différence. Combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même, sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Il a fait pour qu'on puisse recevoir un héritage. Donc, il meurt. Il ne va pas en enfer. Il ne va pas dans les lieux. Il ne va pas en bas, sous la terre. Il va directement au ciel. Comme le souverain sacrificateur. Et il vient et il apporte son sang. Voilà le sang de la nouvelle alliance. Alléluia. Je suis le vrai agneau. Je suis l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je ne suis pas l'agneau qui couvre les péchés des Juifs. Je suis l'agneau qui ôte le péché du monde. Je ne couvre pas le péché. Je suis capable de l'enlever. Amen. Et là qu'il a posé, il a posé pour le salut du monde, de l'humanité. Ensuite, verset 24. La Bible nous explique de manière plus claire. Tu peux voir le film. Avec ton esprit, bien sûr. Verset 24, il dit, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable. Mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Alléluia. Il n'est pas allé devant l'arche de l'Alliance. Il est allé comparaître pour nous devant la face de Dieu. Pas dans un tabernacle imitation, mais dans l'original. Dis à ton voisin l'original. Et ce n'est pas, verset 25, et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Alléluia. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une et une seule fois après quoi vient le jugement, de même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Voilà ce qu'il a fait. Première chose, le diable pense qu'il a gagné. Enfin, on l'a tué. Maintenant, il est dans le séjour des morts. Et il se dit, mais on a tué Jésus, non? Où il est? Il demande à ses collègues, il demande à ses démons-là, vous avez vu Jésus? Ils disent, ah, Jésus, non, on ne l'a pas vu, on ne sait même pas où il est. On dit, mais où est Jésus? Mais on ne sait même pas où est Jésus. Parce que Jésus n'est pas allé directement dans le séjour des morts. Il est monté au ciel, dans le tabernacle original, pour aller lui-même devant Dieu, déposer le sang de notre salut, pour la purification de nos péchés, pour que nous soyons complètement purifiés et nettoyés. Et il va et il dépose ce sang-là. Amen. C'est quelque chose de fort. Maintenant, il y a une deuxième chose qui va se faire. Tu peux le voir dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. Philippiens 2, 5 à 11. C'est par révélation que tu reçois ce genre de choses. Amen. Un jour, le Seigneur m'a dit, je vais te montrer ce qui s'est passé entre la mort de Jésus et sa résurrection. Ce n'était pas une petite affaire. Déployer la puissance de la résurrection, le diable ne pouvait pas, il pouvait pas empêcher. C'est-à-dire que quand il y a des choses, quand ça commence à arriver, toi-même tu sais que tu peux plus empêcher la chose. Tu pouvais empêcher peut-être avant, mais maintenant que ça a commencé à se déployer, c'est fini. Les choses sont déjà faites. Donc pendant ce temps-là, il était en train de se réjouir avec ses démons, il buvait la bière, il buvait du whisky. Ah, on l'a tué, c'est fini pour lui. Il nous fatiguait sur la terre là. Maintenant, on va voir maintenant ce qu'il va faire. Mais au fait, hein, demandez, mais au fait, où il est même? On ne sait pas où est Jésus. Quand il finit de faire l'aspersion au ciel du sang, de son propre sang, regardez, la Bible nous dit ensuite, dans Philippiens, au verset 9 plutôt. Bon, on peut lire à partir du verset 5. Il dit, ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Okay? Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Okay? Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. Verset 9. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il a fait quoi? Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc, il rend l'esprit, il rend l'âme. Il arrive dans le tabernacle céleste. Il vient faire l'aspersion de son sang, de son propre sang. Dieu lui dit, maintenant je t'élève et je te donne le nom qui est au-dessus de tout nom, devant lequel tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc il est investi maintenant de sa pleine autorité. Alléluia. Et il rentre maintenant dans sa gloire. Jusqu'à ce temps-là, il n'est pas encore descendu. Ok? Il a maintenant le nom devant lequel les anges se prosternent. devant lequel, sur la terre, les hommes se prosternent et toutes les puissances terrestres se prosternent, et devant lequel, sous la terre, tous les anges déchus et les démons sont obligés aussi de se prosterner, y compris Satan lui-même. Alléluia! Donc pendant ce temps, Satan encore continue de se demander, mais vous n'avez pas vu Jésus? Où est-ce qu'il est passé? Parce que ce qui se passait avant, c'est que le diable avait le contrôle total de ce qui se passait sous la terre. Il était le patron de là-bas. Et Dieu ne pouvait pas faire grand-chose parce que Dieu lui-même n'était jamais entré là-bas. Il n'a jamais connu la mort, donc il ne peut pas aller dans le séjour des morts. Le séjour des morts est réservé pour ceux qui sont morts. Mais comme Dieu ne connaît pas la mort, il ne peut pas aller dans le séjour des morts. Il fallait donc que Jésus connaisse la mort pour pouvoir avoir accès au séjour des morts. Mais il ne pouvait pas aller dans le séjour des morts comme ça. Il fallait qu'il vienne avec l'autorité. Oh my God. Et avec la puissance. Donc au moment maintenant où les démons sont là en train de siroter leur champagne, de faire péter les bouteilles, oui, on l'a eu, celui-là on l'a eu, et que le diable est en train de se tirer les cheveux en se demandant, mais où est Jésus, où est-ce qu'il est passé? Quelque chose, un grand bouleversement était en train de se passer. Et je peux vous dire qu'aucun des sacrificateurs qui avait promis que Jésus n'allait pas ressusciter, ou que s'il ressuscitait, n'allait pas sortir de ce tombeau, ne savait ce qui était en train de se passer. Mais les choses allaient changer de manière totale et définitive. La raison pour laquelle Jésus était venu sur la terre allait maintenant trouver son accomplissement. Continue. Maintenant, prends Éphésiens chapitre 4, verset 10. Alléluia. Donc Dieu lui donne maintenant le nom qui est au-dessus de tout nom, devant lequel tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Après ça, la Bible nous dit au verset 10. Au verset 9, on peut commencer au verset 9. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Amen. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Donc, il est monté et il est descendu. Au verset 8, même la Bible nous dit, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, donc il est d'abord monté en haut, il a emmené des captifs. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a délivré des gens dans le séjour des morts. Il a pris des gens qui étaient en captivité. Parce que la Bible nous montre que quand bien même Abraham avait agi selon la volonté de Dieu, David avait agi selon la volonté de Dieu, beaucoup de personnes avaient plu à Dieu, ils allaient quand même en enfer. Ils allaient quand même dans le séjour des morts. Et dans le séjour des morts, il y avait un endroit qui était réservé aux justes, qu'on appelait le sein d'Abraham. Et c'est de là-bas que Lazare a vu Abraham et il a dit, Père Abraham, dis... le riche, il a dit, Père Abraham, dis à Lazare d'aller tremper son doigt dans de l'eau pour venir mettre sur ma langue. Donc, il y avait un endroit où les gens étaient à l'aise. C'était un peu comme une prison 3 étoiles. Et puis, il y avait un endroit où c'était vraiment le goulag. Donc, les méchants, ils allaient au goulag et puis les bons, ils allaient dans le 3 étoiles. C'était tellement dangereux là-bas que il n'a même pas demandé un verre d'eau. Il n'a pas dit, Père Abraham, pardon, dis à Lazare de m'apporter un verre d'eau. Il n'a pas demandé une gorgée. Il n'a pas dit, Père Abraham, pardon, dis à Lazare de m'apporter une gorgée d'eau. Il dit, Père Abraham, demande à Lazare de tremper son doigt dans un peu d'eau et puis il va mettre sur ma langue pour que je puisse me désaltérer. Pour te montrer à tel point sa soif était tellement grande que même un verre d'eau, il ne s'imaginait pas boire ça. Il voulait seulement que quelqu'un mette son doigt dans de l'eau pour mettre sur sa langue. Et donc tous ces gens-là, ils étaient là, mais ils attendaient quelqu'un. Ils attendaient l'espérance, ils attendaient l'espoir, ils attendaient la promesse. Quelle était cette promesse-là? Que le Messie allait venir. Que celui qui allait permettre maintenant qu'il n'y ait plus de barrière entre le ciel, la terre et les lieux sous terre puisse venir. Et donc qu'est-ce qu'il a fait? À un moment donné, Jésus... On dit que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu. Celui qui est monté et qui a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom s'apprête maintenant à aller faire sa visite dans le séjour des morts. Oh my God. alors que le diable et ses démons sont en train de danser. On l'a eu, oh, on l'a eu. On l'a eu, oh, on l'a eu. On l'a eu, oh, on l'a eu. Puis les démons sont là, ils sont contents. C'est fini, c'est fini. Je te dis, c'est fini. Tu es trop fatigué. D'ailleurs, même quand il m'a chassé là, il n'a même pas eu pitié de moi. Là, on l'a réglé ce jour-là. Moi-même, je suis allé rentrer dans le corps du garde qui a arraché sa barbe là. Je te dis que moi-même, je l'ai vu, on a arraché sa barbe. Il est fini. Mais un temps, le diable dit, mais au fait, où il est? Un temps, le Seigneur est déjà monté au ciel. Il a déjà fait l'aspersion du sang. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, devant lequel tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre. Ça veut dire que devant son nom, le cancer fléchit les genoux. Alléluia. Il n'y a pas une entité, une force, une puissance, un nom. À partir du moment où tu peux donner un nom à cette chose-là, c'est en dessous du nom de Jésus. Oh my God. Oh, nous savons, par essence, que tout a un nom. Donc si c'est un nom, c'est que le nom qui est au-dessus de tout nom a autorité sur cette chose. Donc comme le diable lui-même, il a un nom. On l'appelle Satan. Des fois, on l'appelle le serpent ancien. On l'appelle aussi le dragon. On l'appelle le diable. On l'appelle celui qui aveugle les gens de ce monde. Et celui qui domine aussi sur le monde. On l'appelle aussi celui qui donne la gloire aux gens et tout ça. Mais il a un nom. Mais le nom de Jésus est au-dessus. Moi, je l'appelle le bandit. Le bandit, el bandito. C'est un bandit. Parce que lui, il use de ruse pour pouvoir voir les gens. Donc maintenant, il commence à demander, mais où il est? Tu l'as vu? Non, je ne sais pas. Mais ils sont en train de fêter. On l'a eu, oh, on l'a eu. Maintenant, quelque chose commence à se passer. Il y a un tremblement de terre qui commence à se faire. La terre commence à trembler là-bas. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Les fondements même de la prison, c'est ce qu'on appelle les fondements de la prison, les fondements de l'enfer commencent à trembler. Parce que Dieu, pour la première fois, s'apprête à rendre visite au séjour des morts. Oh my God. Les démons disent, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et puis il y a un autre qui dit, c'est Jésus. Or, oh, entre le moment où Jésus est monté au ciel, on lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc maintenant, son nom a une particularité dans le monde spirituel. C'est que quand tu entends le nom de Jésus, les genoux fléchissent. Donc quand le démon dit, c'est Jésus, tous les démons en même temps tombent par terre, à genoux. Il dit, hey! Tu dis quoi? C'est Jésus. Les gars tombent encore. On dit, mais arrête de dire ce nom. Alléluia! Allez, arrête de dire ce nom! Amen! Donc maintenant, les démons sont dans la confusion. Alors qu'avant, c'était les disciples qui étaient confus. Parce que leur patron, leur maître, leur seigneur a été crucifié. Ils ne comprennent plus rien. Il est mort. Celui qu'on suivait est mort. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, c'est le diable qui ne comprend plus rien. Mais je pensais qu'on l'avait eu, non? Mais je te dis qu'on l'a eu. Mais on l'a eu comment? On lui a permis de pouvoir entrer là où en temps normal, il ne devait pas rentrer. Ah! Alléluia! C'est là qu'on a déjà dit, oh, 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 qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est déjà trop tard. La Bible nous dit plus tard, dans le livre d'Apocalypse, tu vas comprendre. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1. Tu as besoin de connaître cette vérité. Comme ça, quand tu pries, tu vas savoir comment tu pries. Et tu vas savoir qu'il n'y a aucune puissance qui peut s'opposer à toi. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu sais, très souvent, on parle, quand on dit Jésus, 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 on pense encore au Jésus qui a marché sur la terre. Mais entre le Jésus qui a marché sur la terre et puis le Jésus de maintenant, il y a une grande différence. Vous savez, en réalité, quand Jésus est venu vers les Juifs ne l'ont pas reçu. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'attendaient pas Jésus. Ils attendaient le Messie. Pour eux, le Messie devait venir dans la gloire et devait venir du ciel.
Il devait être environné d'anges. Il devait venir pour mettre fin à la domination du diable sur la terre. Mais au lieu de leur présenter un Jésus, un Messie glorieux, on leur montre le fils du charpentier. Ils disent non, il y a un problème. Parce qu'ils ont vu dans leurs écritures, mais ils n'ont pas compris qu'avant de revenir, de venir dans sa gloire, Jésus devait venir une première fois pour mourir sur la terre, pour récupérer ce qu'on appelle les clés, la clé du séjour des morts. Et après, il allait revenir dans sa gloire. Donc maintenant, le Jésus qui est descendu dans les lieux sous terre, ce n'était pas le Jésus qui a marché sur la terre. Je vais vous montrer comment il était. Lis à partir du verset 10. Apocalypse toujours, Apocalypse 1. Il dit, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, à Laodicée. Il dit, je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, quand il s'est retourné, je vis sept chandeliers d'or. Et au milieu des sept chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Là, maintenant, il va voir Jésus dans sa gloire. Vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or à sa poitrine. Donc, il a une ceinture d'or à sa poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite sept étoiles. Et de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. Et son visage était comme le soleil qui brille dans sa force. Quand je le vis, quand il a vu Jésus, notre Jésus, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il va lui faire une révélation. Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Où est-ce qu'il a pris les clés de la mort et du séjour des morts? Lorsqu'il est parti visiter les lieux inférieurs. Avant, il ne les avait pas. Mais maintenant, il les a. Qui a les clés de la mort? Jésus. Qui a les clés du séjour des morts? Jésus. Donc pendant que les hommes étaient en train de se fatiguer sur la terre, en train d'essayer de l'empêcher de ressusciter, lui, il est parti chercher les clés de la mort et du séjour des morts. C'est pour ça qu'il a eu la victoire sur la mort. Lorsque maintenant, il a décidé de sortir, c'est celui qui a les clés, c'est lui qui détermine. C'est celui qui a les clés qui décide. C'est celui qui a les clés qui décide qui rentre, qui sort. Alléluia. Tu peux discuter. Mais si moi j'ai les clés, je ferme et puis je m'en vais. Tu ne peux pas rentrer tant que tu ne me vois pas. Donc il dit à Jean, il dit reste tranquille. Le combat là, il est gagné. Oh my God. Alléluia. J'ai fait une mission excellente. Je suis allé prendre la chose qui était importante et essentielle. Parce que tant que cette clé-là était dans les mains du diable, je ne pouvais pas faire grand-chose. J'ai étudié les hommes sur la terre, mais dès qu'ils meurent, le diable vient les chercher. Pour empêcher même que le diable puisse avoir certains, il a fallu que Dieu lui-même envoie ses anges pour aller les chercher. La Bible nous en parle dans le livre de Jude, lorsque le diable est venu chercher le corps de Moïse. Quand Moïse est mort, le diable est venu se présenter et dit, je suis venu chercher le corps. Dieu a envoyé Michaël pour dire, ce corps-là, il monte au ciel, il ne va pas là-bas. Mais dès que ça partait, le diable automatiquement verrouillait, puisque c'est lui qui avait les clés. C'était un problème. Et c'est ce problème-là que Jésus est venu régler. C'est pour ça que si tu dois sortir du séjour des morts, et si tu dois avoir la victoire sur la mort, il y a seul Jésus qui a les clés. Alléluia! Qui a les clés pour pouvoir ouvrir les portes et pouvoir sortir des portes. Pour pouvoir ouvrir la porte et pour pouvoir la fermer. Quand il finit ça, qu'est-ce qu'il fait? Il se montre aux disciples maintenant. Il revient maintenant sur la terre et puis il se montre aux disciples. En réalité, regardez dans Matthieu, toujours Matthieu. On a lu le 27, tu vas lire 28. Là, tu commences à voir le film total de ce qui s'est passé. Amen. Voilà, c'est la suite de la passion du Christ. Je vais envoyer le scénario à Mel Gibson pour qu'il tourne la résurrection. Après la passion du Christ, nous avons la résurrection du Christ. Tu vois? Parce que c'est vrai qu'il a souffert, mais il a souffert pour accomplir quelque chose. Donc maintenant, après que les gens se soient ligués, regarde maintenant Matthieu 28, verset 1. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Verset 2. Et voici. Dis, et voici. Quand maintenant, il prend la clé de la mort et du séjour des morts entre les mains du diable, il dit, donne-moi ça. Entend le diable, il a genoux, il ne comprend pas. Sa puissance est écrasée. Il ne peut rien faire. Quand il lui dit, donne-moi la clé, la main du diable commence, Seigneur, il saisit la clé. Et voici, au moment où il prend la clé, qu'est-ce qui se passe? Sur la terre se produit quelque chose. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Car un ange, ce n'est même pas des anges, un seul ange. Oh. Alléluia. Les gens disent, si tu es vraiment le fils de Dieu, il faut dire à ton père, il va envoyer les anges pour te défendre. Dieu n'a même pas besoin d'envoyer des anges. Un seul ange. Pourquoi va gaspiller la puissance? La Bible dit que le diable a combattu dans le ciel contre Michaël et ses anges. Et Dieu n'est même pas rentré dans le combat. Il a laissé Michaël et le diable. Mais il ne trouvait plus de place pour le diable dans le ciel. Tellement la débâcle était grande. Et il fut précipité. Le serpent ancien, le dragon, celui qu'on appelle le diable, celui qui séduit toute la terre, il était précipité sur la terre. Et il est descendu sur la terre, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Dieu peut l'arrêter en un claquement de doigts. Verset 2, et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel. Donc l'ange est venu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il veut rouler la pierre. Alléluia. La pierre qu'ils ont placée, ils ont scellé ça. Quand elle est descendue là, au moment où l'ange descendait déjà, les gardes même qui étaient là, ils ont commencé à trembler. D'autres ont fui, ils ont oublié leurs chaussures. Il est arrivé. Il a roulé la pierre. Il a juste fait ça. La pierre a roulé. Pourquoi? Parce qu'en temps dans la grotte, là, Jésus avait déjà eu le temps de descendre, de faire ce qu'il a fait, de descendre, de prendre la clé, ses joues des morts. Maintenant, quand il a eu la clé, il était temps pour lui de sortir. À ce moment-là, c'est là que l'ange est venu pour rouler la pierre. Amen. La Bible dit, il s'assit maintenant sur la pierre. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblaient de peur et devinrent comme morts. Ça dit, ils sont arrêtés comme ça. Ça, c'est la puissance de... Oh my God! C'est la puissance de Dieu déployée. Les gardes, là, ils peuvent faire quoi? Rien du tout. Ils sont restés là comme ça. Ils n'ont même pas pu bouger. Amen. Quand Dieu va agir dans ta vie, les gens qui veulent s'opposer à ta percée, qui sont en train, dans des sociétés secrètes, en train de comploter, de faire des plans, ils vont simplement regarder comme ça et ils pourront même pas bouger le petit doigt. Ils vont voir la délivrance de l'Éternel s'opérer dans ta vie et personne ne pourra s'y opposer. Alléluia. Les gars tremblaient de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas. Car je sais ce que vous cherchez. Je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. L'ange lui dit, il n'est point ici. Il est ressuscité, comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et les femmes maintenant viennent voir l'endroit où il était couché. Le corps a disparu. Jésus est rentré dans sa gloire. Il va maintenant dire quelque chose à la fin. Il dit, au verset 18, il va maintenant se présenter aux disciples, au verset 16. Les 11 disciples allaient en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Donc l'ange va leur dire, allez dire aux disciples que Jésus leur donne rendez-vous sur la montagne en Galilée. Et les disciples vont y aller. Et lorsqu'ils arrivent sur la montagne, quand ils le virent, ils voient, donc ils arrivent, ils voient Jésus. Quand ils le virent, ils se prosternent devant lui. Hé, Seigneur, c'est toi?
Oui, c'est moi.
Alléluia. Il a déjà accompli. Il a fait ce qu'il a dit qu'il allait faire. C'est pas comme ça, Cosi. Bon. Quand... il y a des choses que tu maîtrises. Il y a des choses que tu ne maîtrises pas. Tu peux vouloir faire. La Bible dit, nombreux sont les désirs dans le cœur de l'homme. Mais seule la volonté de l'Éternel s'accomplit. Quand tu parles, il faut dire si Dieu veut. Alléluia. Parce qu'il n'y a que si Dieu est avec toi que tu vas pouvoir faire ce que tu as dit que tu allais faire. Tu peux faire les plans, tout calculer. Mais si l'Éternel n'est pas avec toi, tout ce que tu as planifié peut s'effondrer comme un château de cartes. Quand il le vit, il se prosternait devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi. Qu'est-ce qu'il leur dit? Écoutez bien. Il dit quoi? Tout pouvoir. Alléluia. Dis tout pouvoir. Tout pouvoir. C'est absolu. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites des nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est là qu'il nous donne encore une dernière révélation. Non seulement il a les clés du séjour des morts et de la mort, et maintenant il leur dit, j'ai tout pouvoir. Donc Jésus a tout pouvoir. Il a tout pouvoir. Il n'y a rien qu'il ne puisse faire. Il n'y a rien qu'il ne puisse accomplir. Il a payé tout ce qu'il devait payer comme prix. Il a fait tout ce qu'il devait faire. Il a accompli le salut parfait. Tout pouvoir. C'est pour ça que la Bible dit, voilà les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Quand tu crois, tu ne peux pas croire ces choses-là, que Jésus a fait ces choses, que Dieu a fait ces choses, et ne pas le servir. Parce que tu crois, tu le sais, tu en parles aux autres, tu gagnes des âmes, tu pries pour eux, tu annonces la bonne nouvelle, et le royaume de Dieu se lève pour toi. Et le pouvoir qui lui a été donné agit en ta faveur. Mais tant que tu t'exclus et que tu sors de ce plan, tu n'es pas dans le mandat. Le Seigneur a donné un mandat. Allez et faites des nations des disciples. Amen. Tout pouvoir m'a été donné. Allez. Donc quand tu vas sur la base de sa parole, alors tu vois sa puissance s'accomplir dans ta vie. Aujourd'hui, l'Église ne doit pas se cacher dans des salles, ne doit pas revenir à un système où on est centré sur nous-mêmes et nos propres problèmes et nos situations. Oh, j'ai mal, Seigneur, ça fait 10 ans, j'ai mal au ventre. Ça fait 15 ans, mon orteil me fait mal, j'attends ma guérison. Il y a des gens, ils attendent leur guérison, ça fait 15 ans, ils attendent sa guérison. D'autres, ça fait 20 ans, ils cherchent la délivrance. Le Seigneur n'a pas dit, allez chercher votre délivrance. Il a dit, allez, faites des nations des disciples. Alléluia. Il n'a pas dit, allez chercher la guérison. Il dit, allez, faites des nations des disciples. Dans le cadre, il dit, tout pouvoir m'a été donné. Ça veut dire que dès le moment où tu t'inscris dans la volonté de Dieu, qui est d'aller et de faire des nations des disciples, il n'y a aucun pouvoir qui ne peut résister au pouvoir que lui, il a reçu. Donc, la maladie ne peut pas t'empêcher. Les démons ne peuvent pas t'empêcher. Le diable ne peut pas t'empêcher. Mais si tu décides de sortir de ce plan-là pour te mettre maintenant à côté, tu vas commencer à te battre avec un démon. Un deuxième va venir, un troisième va venir, un quatrième, un cinquième. Après, tu es là. Tu es avec au moins 50 démons, toi seul, tu es en train de te battre avec les démons alors que le chemin, il est là. Mais tu ne veux pas le prendre. La Bible dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Tu es le sel de la terre. Une particularité du sel, c'est quoi? Si tu prends du sel pour verser dans du sel, est-ce que le sel là peut être plus salé qu'il ne l'était avant? Le sel ne peut pas saler le sel. Non, ça ne sert à rien de te muscler sur les chrétiens. Tu es le sel, il est le sel, elle est le sel, vous êtes le sel. Donc toi, tu ne vas pas le rendre plus salé. Mais il y a des gens qui sont dehors là, qui n'ont aucun sel dans leur vie. Oh my God! Qui ont besoin du sel que tu es. Tu dois aller influencer leur vie et tu dois aller les assaisonner. Maintenant, il dit quelque chose qui est très important. Il dit, si le sel venait à perdre sa saveur, ça dit que si le sel ne joue pas son rôle d'influencer l'extérieur, il ne servirait à rien sinon à être jeté à terre et à être foulé aux pieds. Donc, quand tu refuses de prendre ta position et de jouer ton rôle qui est d'influencer les gens, de prier pour les gens, de leur annoncer la bonne nouvelle, d'amener des âmes à la conversion, de les enseigner, de les entretenir, ta seule finalité, c'est que le diable va venir danser sur ta tête et sur ton cou et sur tes pieds et sur ton ventre. Et c'est là que tu dis, oh, pasteur, secours, j'ai mal au ventre, je ne comprends pas, ça fait 7 ans, il y a un démon qui marche sur mon ventre. Oh, c'est pasteur, il y a un démon qui marche sur ma tête, ça fait 10 ans, je cherche ma délivrance. Tu vas faire le tour des églises de Paris, si tu veux, va à Kinshasa et à Abidjan. Les démons ne connaissent pas de frontières. Ils m'ont dit, mais toi-même là-même, tu es qui même? On va marcher sur toi. Pourquoi? Parce que tu ne fais rien. Tu n'es pas dans le plan de Dieu. Et toi, au lieu de comprendre ça, tu es encore en train de dire, maintenant, avant c'était le ventre seulement, maintenant c'est le pied gauche, le pied droit, c'est pas fini. Ils vont prendre aussi la tête et puis ils vont prendre le bras, et puis, mais ils vont te... Jusqu'à ce que tu comprennes que le Seigneur a dit, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer n'auront pas l'avantage contre elle. Tant que tu n'es pas entré dans l'église du Seigneur. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais ils ne sont pas dans l'église. Ils viennent à l'église, mais ils ne sont pas dans l'église. Parce que l'église du Seigneur, elle évangélise. L'église du Seigneur, elle intercède. L'église du Seigneur, elle prie. Elle annonce la bonne nouvelle. Elle prie pour les autres. Toi, tu viens à l'église. Amen. Lui a été donné. À quel moment ça lui a été donné? Lorsqu'on lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, devant lequel tout genou fléchira, sur la terre, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Et maintenant, celui qui a tout pouvoir nous dit à nous, allez. Alléluia. Il te dit à toi, va. Il te dit, fais ce que tu dois faire. J'ai tout pouvoir. En d'autres mots, ça veut dire que dans le cadre de ta mission, tu seras toujours protégé. Aucune entité, aucune puissance, aucune formation ne pourra t'empêcher d'accomplir ce que je te demande de faire tant que tu restes dans le cadre de ma volonté. Tout pouvoir m'a été donné. Allez. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens qui ne veulent pas partir. Ils ne veulent pas aller. Ils pensent qu'ils sont dans un bateau de plaisance. Ils pensent qu'ils sont dans un club d'amis. Ils ne savent pas qu'ils sont dans une opération, dans une entreprise que Dieu lui-même a mise en place pour pouvoir sauver des âmes. Le Seigneur a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Le problème, c'est que tant que tu marches en dehors du chemin, tu n'es pas sous la protection. À partir du moment où tu marches sur le chemin, alors tu es sous la protection. Est-ce que vous voyez? Il faut demeurer dans sa volonté pour que son pouvoir puisse s'exercer dans ta vie et te protéger. Aujourd'hui, vous avez des gens qui disent... Oui, moi je vais commencer à servir Dieu quand tous mes problèmes seront réglés. Laisse-moi te dire quelque chose. Commence à servir Dieu et il va régler tous tes problèmes. En réalité, ce n'est même pas lui-même qui va les régler. C'est le pouvoir qu'il a qui va commencer à opérer dans ta vie parce que tu marches dans sa volonté. Gens qui disent, oui, il faut que mes problèmes d'abside, tant que Dieu n'a pas réglé cette situation-là, moi je le fais. Mais si tu ne le fais pas, c'est grave. Tu sais pourquoi? Parce que tu es en dehors du chemin. Mais tes problèmes vont commencer réellement à être résolus lorsque tu vas entrer dans l'église. Alléluia. On va se lever, on va prier le Seigneur. Alléluia, tu peux acclamer ton Dieu. La preuve même qu'il a tout pouvoir. Lorsqu'il a accompli ça, il a dit maintenant à Pierre, il dit, tu vois Pierre, tu es Pierre. Et sur le roc, je bâtirai mon église. Il dit, je te donne les clés du royaume. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Donc c'est une prérogative que nous avons lorsque nous sommes dans l'église de Jésus. Et lorsque nous marchons dans ses plans et dans sa volonté. Amen. Aujourd'hui, tu dois prendre une décision. Est-ce que tu veux être un simple spectateur? Ou bien est-ce que tu veux être un acteur? Est-ce que tu veux te tenir à côté de la table et manger les miettes qui tombent de la table des enfants, comme les petits chiens qui viennent lécher les miettes qui tombent? Ou bien est-ce que tu veux être assis à la table avec le Seigneur? Alléluia. Tu vas prier ton Dieu ce soir. Et tu vas lui dire, Seigneur, je te demande pardon pour avoir ignoré le chemin que tu as tracé pour moi. Pour m'être inscrit et perdu même dans mes propres pensées et dans mes propres voies. Lorsque j'ai cru que par mes forces, j'allais pouvoir changer ma situation. Je comprends aujourd'hui mon égarement et mon erreur. Et je comprends surtout mon orgueil. Aujourd'hui, Seigneur, je décide de m'humilier devant toi et de m'humilier devant ta volonté, de te suivre et de te servir, de t'obéir en toutes choses et de marcher selon ta volonté. Père, ouvre pour moi les portes du royaume. Permets que j'entre dans le royaume et que je devienne un citoyen du royaume de Dieu. Tu vas lever les mains vers le Seigneur. La Bible a dit que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Permets, Seigneur, mon Dieu, que toute personne ici dans ce lieu puisse connaître la naissance d'eau et puisse connaître la naissance de l'esprit et de feu. Afin, Seigneur mon Dieu, que nous soyons véritablement des ambassadeurs, des citoyens du royaume. Que les grâces du royaume soient notre partage, que l'héritage des membres du royaume soit notre partage. Car Christ n'est pas mort pour rien. Il est mort pour nous sauver, il est mort pour accomplir un acte salutaire. Que cet acte, Seigneur mon Dieu, trouve son accomplissement dans ma vie, au nom de Jésus. Que cet acte, Seigneur mon Dieu, trouve son accomplissement dans ma vie, Seigneur, au nom de Jésus, et dans la vie de chaque personne ici, au nom de Jésus. Seigneur, le nom de Jésus est plus grand que le nom du cancer. Il est plus grand que le nom de la maladie. Il est plus grand que le nom de toute forme de démon. Il est plus grand que même la mort. La mort n'a pas de pouvoir sur le nom de Jésus. Et je déclare ce soir, au nom de Jésus, La mort s'éloigne de nos vies au nom de Jésus. Il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et si tu es capable d'avoir la victoire sur la mort, il n'y a aucune situation dans ta vie qui ne puisse être confrontée et être vaincue. Alléluia. Et chacune de ces situations est transformée maintenant au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia.